4. Le livre ouvert sur ses genoux, Gaspard Coutances ne parvenait pas à détacher son regard des photos des wagons de métro peints par Sean Lawrence en ces mois de juillet et août 1992. Ces fresques étaient éblouissantes. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Ou plutôt, si, elle lui rappelait la femme fleur de Picasso, ainsi que certaines affiches d'Alphonse Mucha, mais version underground et classée X. Qui était cette fille dont le corps flamboyait comme s'il avait été recouvert de feuilles dorées? L'épouse de Lorenz, bien sûr, lui indiqua la légende. Cette Pénélope qu'il avait déjà aperçue sur les portraits de famille en noir et blanc. Une femme ambivalente, tantôt accueillante, tantôt vénéneuse. Une créature aux jambes interminables, à la peau d'albâtre et aux cheveux couleur de rouille. Fasciné, Gaspard tourna les pages de la monographie pour découvrir d'autres fresques d'un érotisme troublant. Sur certains clichés, les cheveux de Pénélope ressemblaient à des dizaines de serpents qui ondulaient le long de ses épaules, s'entortillaient autour de ses seins, lui léchant les flancs, caressant ses parties intimes. Son visage, coiffé d'un halo psychédélique, ou inondé d'une pluie d'or, était déformé par le plaisir. Son corps se dupliquait, se contorsionnait, tournoyait, s'embrasait. 5. Avec ce coup d'éclat, Lorenz fait exploser les codes, expliqua Bénédicte. Il s'émancipe des règles rigides du graffiti pour passer dans une autre dimension et inscrire son travail dans la continuité de peintres comme Klimt ou Modigliani. Fascinée, Madeleine fit défiler une nouvelle fois les parois chatoyantes des wagons. Toutes ces œuvres ont disparu aujourd'hui ? Le galeriste eut un sourire mi-amusé, mi-fataliste. Oui, elles n'ont existé que le temps d'un été. L'éphémère, c'est l'essence même de l'art urbain. C'est aussi ce qui fait sa beauté.
Qui a pris toutes ces photos ?
La fameuse Lady Bird. C'est elle qui s'occupait des archives des artificiers.
Pour Lorenz, c'était dangereux de se lancer dans une entreprise pareille, non ?
Bénédicte approuva. Au début des années 1990 à New York, on entrait dans l'ère de la tolérance zéro. Les forces de l'ordre disposaient d'un arsenal législatif très dissuasif et la MTA, la Régie des Transports Publics de la ville, avait engagé une véritable chasse à l'homme contre les graffeurs. Les tribunaux prononçaient des peines très lourdes, mais le risque encouru témoignait aussi de l'amour que Sean portait à Pénélope.
Concrètement, il s'y prenait comment ?
Sean était malin. Il m'a raconté qu'il possédait des uniformes pour s'infiltrer au sein des brigades de surveillance du métro et pouvoir accéder aux dépôts où stationnaient les trains.
Madeleine avait toujours les yeux scotchés sur l'écran du smartphone. Elle pensait à cette femme, Pénélope. Qu'avait-elle ressenti en voyant son image radieuse et impudique inonder ainsi Manhattan ? Avait-elle été flattée, mortifiée, humiliée ?
Lorenz est-il arrivé à ses fins ? Demanda-t-elle.
Vous voulez savoir si Pénélope a atterri dans son lit ?
Je n'aurais pas formulé ça comme ça, mais oui.
D'un signe de la main, Bénédicte réclama deux cafés avant d'expliquer. Au début, Pénélope a ignoré Sean. Mais il est difficile d'ignorer longtemps un type qui vous idolâtre de cette façon. Au bout de quelques jours, elle a fini par tomber sous son charme. Ils se sont aimés follement cet été-là. Puis en octobre, Pénélope est rentrée en France.
Une simple amourette de vacances, donc.
Le galeriste secoua la tête. Détrompez-vous. Sean avait cette fille dans la peau. À tel point qu'en décembre de la même année, il a rejoint Pénélope en France et s'est installé avec elle à Paris, dans un petit deux pièces de la rue des Martyrs. Là, Sean a continué à peindre. Non plus sur des rames de métro, mais sur les murs et les palissades des terrains vagues de Stalingrad et de la Seine-Saint-Denis.
De nouveau, Madeleine jeta un coup d'œil aux photos des fresques de cette période. Elles avaient toujours les mêmes couleurs éclatantes et explosives, une vitalité qui rappelait les murals d'Amérique du Sud.
C'est à cette époque, en 1993, que j'ai rencontré Sean pour la première fois, confia à Bénédicte, les yeux dans le vague. Il peignait dans un petit atelier de l'hôpital éphémère.
L'hôpital éphémère ?
Un squat dans le 18e, sur le site de l'ancien hôpital Bretonneau.
Au début des années 1990, beaucoup d'artistes pouvaient y travailler. Des peintres et des sculpteurs, bien sûr, mais aussi des groupes de rock et des musiciens.
Le visage du galeriste s'anima soudain au rappel de ce souvenir.
« Je ne suis pas un artiste, et je n'ai pas de talent particulier, mais j'ai du flair. Je sens les gens. Et lorsque j'ai rencontré Sean, j'ai vu au premier coup d'œil qu'il valait 100 fois plus que les autres graffeurs. Je lui ai proposé de l'exposer dans ma galerie. Et je lui ai dit les mots qu'il avait besoin d'entendre à l'époque.
À savoir ?
Je lui ai conseillé de laisser tomber les graffitis et ses bombes aérosols pour peindre directement à l'huile et sur toile. Je lui ai dit qu'il possédait le génie des formes, de la couleur, de la composition, du mouvement. Qu'il avait en lui les ressources pour inscrire son travail dans la lignée de Pollock ou de Kooning.
En évoquant son ancien protégé, Bénédicte avait la voix presque chevrotante et les yeux humides. Madeleine pensa à une de ses anciennes copines qui, des années après une rupture, parlait encore avec des sanglots dans la voix du mec qui l'avait sèchement largué. Elle avala son ristretto d'un trait avant de demander « Lorenz s'est plu tout de suite en France ?»
Sean était un type à part. C'était un solitaire, très différent des autres graffeurs. Il détestait la culture hip-hop, lisait beaucoup et n'écoutait que du jazz et de la musique contemporaine et répétitive. New York lui manquait, bien sûr, mais il était très amoureux de Pénélope. Même si leur relation a toujours été tumultueuse, elle ne cessait de l'inspirer. Entre 1993 et 2010, Sean a fait 21 portraits de sa femme. Cette série de tableaux est le chef-d'œuvre de Sean Lorenz. Les 21 Pénélope resteront dans l'histoire de l'art comme l'une des plus magistrales déclarations d'amour faites à une femme.
Pourquoi 21 ? Demanda Madeleine.
À cause de la théorie des 21 grammes. Vous savez, le poids supposé de l'âme.
Lorenz a eu du succès tout de suite ?
Pas du tout. Pendant 10 ans, il n'a pratiquement pas vendu une toile. Il peignait pourtant du matin au soir. Il lui arrivait fréquemment de jeter l'intégralité de son travail parce qu'il n'en était pas satisfait. C'était mon boulot de faire connaître et d'expliquer la peinture de Sean aux collectionneurs. Au début, c'était compliqué parce que son travail ne ressemblait à rien de connu. Il m'a fallu une décennie pour y arriver, mais mon entêtement s'est avéré payant. Au début des années 2000, à chaque exposition de Sean, toutes les toiles étaient vendues dès le soir du vernissage. Et en 2007...
6. En 2007, Alphabet City, un tableau de Sean Lorenz datant de 1998, est adjugé 25 000 euros dans une vente aux enchères organisée par Art Curial. C'est cette vente qui, en France, marque véritablement l'explosion du street art et son début de reconnaissance institutionnelle. Du jour au lendemain, Sean Lorenz devient une star des salles de vente. Ses tableaux colorés, typiques des années 1990, s'arrachent et battent record sur record. Mais d'un point de vue artistique, le peintre est déjà passé à autre chose. L'adrénaline et l'urgence du graffiti ont laissé la place à des toiles plus réfléchies, composées au long cours pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec une exigence de plus en plus forte envers lui-même. Lorsqu'il n'était pas satisfait d'un tableau, Lorenz le brûlait immédiatement. Entre 1999 et 2013, il peindra ainsi plus de 2000 toiles qu'il détruira presque toutes. Seule une 40aine de toiles échappe à son jugement féroce. Parmi elles, CEP1M1R, une toile monumentale évoquant la tragédie du World Trade Center, achetée plus de 7 millions de dollars par un collectionneur qui en fera don au musée new-yorkais du 11 septembre. Gaspard leva les yeux du texte et tourna les pages pour regarder les reproductions des tableaux de cette période. Lorenz avait su se renouveler. Les tags et les lettrages avaient disparu de sa peinture qui s'organisait à présent autour de blocs de couleurs, de champs monochromes aux reliefs marqués, appliqués au couteau ou à la truelle, oscillant sans cesse entre l'abstraction et le figuratif. Sa palette était peut-être devenue moins vive, davantage pastel ou automnale, sable, ocre, marron, rose poudré, mais elle était aussi plus subtile. Gaspard fut conquis par les toiles de cette période. Minérale, nacrée, elle lui rappelait tour à tour les roches, la terre, le sable, le verre, les traces de sang brun sur un suaire. Les tableaux de Lorenz semblaient animés. Ils se vivaient physiquement, vous prenaient aux tripes, au cœur, vous faisaient perdre pied, vous hypnotisaient et vous renvoyaient à des sentiments contraires. La nostalgie, la joie, l'apaisement, la colère. Les dernières peintures reproduites dans l'ouvrage étaient des monochromes datant de 2010. Désormais, c'est la matière qui primait. Des couches denses, du relief pour jouer avec la lumière, mais toujours des œuvres somptueuses. En refermant le livre, Gaspard se demanda comment il avait pu passer aussi longtemps à côté d'un tel artiste. 7. Quel était le rapport de Lorenz à l'argent ? Interrogea Madeleine. Bénédicte trempa un carré de sucre dans son café comme s'il s'agissait d'une eau de vie.
Sean considérait l'argent comme un thermomètre de la liberté, affirma-t-il en engloutissant son canard. Pénélope, c'était autre chose. Elle n'en avait jamais assez. À la fin des années 2000, lorsque la cote de Sean était à son plus haut, elle n'a cessé d'intriguer pour convaincre son mari de donner certaines toiles à Fabian Zakarian, un galeriste new-yorkais. Puis elle lui a conseillé de vendre directement aux enchères une vingtaine de ses nouveaux tableaux sans passer par ma galerie. Ça a rapporté des millions à Sean, mais ça a abîmé notre relation.
Comment une toile se retrouve-t-elle un beau matin à valoir plusieurs millions de dollars ? Demanda Madeleine.
Bénédicte soupira.
Vous posez une bonne question à laquelle il est très difficile de répondre, car le marché de l'art n'obéit pas à la rationalité. Le prix d'une œuvre résulte de la stratégie complexe de différents intervenants. Les artistes et les galeristes, bien sûr, mais également les collectionneurs, les critiques, les conservateurs de musées.
J'imagine que la trahison de Sean a dû vous affecter. Le galeriste grimaça, mais se voulut fataliste.
C'est la vie. Les artistes, c'est comme les enfants. C'est souvent ingrat.
Il demeura silencieux quelques secondes avant de préciser « L'univers des galeries d'art est un monde de requins, vous savez. Surtout lorsque, comme moi, vous n'êtes pas né dans le sérail. »
Vous êtes quand même resté en contact ?
Bien sûr. Sean et moi, c'est une vieille histoire. 20 ans qu'on se fâche et qu'on se réconcilie. Nous n'avons jamais cessé de nous parler, ni après l'épisode Zakarian, ni après le drame qui l'a frappé.
Quel drame ?
Bénédicte souffla bruyamment.
Sean et Pénélope ont toujours voulu un enfant, mais ils ont beaucoup galéré. Pendant 10 ans, elle a enchaîné les fausses couches. Je pensais même qu'ils avaient renoncé lorsque le miracle s'est produit. En octobre 2011, Pénélope a mis au monde un fils, le petit Julian. Et c'est là que les ennuis ont commencé.
Les ennuis ?
À la naissance de son gamin, Sean était le plus heureux des hommes. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il s'enrichissait au contact de son fils, que grâce à Julian, il voyait le monde avec un regard neuf, qu'il avait redécouvert certaines valeurs et renoué avec des choses simples. Enfin, vous saisissez le topo, quoi. Le discours un peu couillon de certains hommes devenus pères sur le tard.
Madeleine ne releva pas. Bénédicte continua.
Le problème, c'est qu'artistiquement, il traversait un véritable passage à vide. Il prétendait ne plus avoir de jus créatif et être fatigué de l'hypocrisie du monde de l'art. Pendant 3 ans, il n'a rien fait d'autre que de s'occuper de son fils. Vous imaginez ça ? Sean Lorenz en train de donner des biberons, de promener une poussette ou de faire des animations dans des écoles maternelles. L'essentiel de son travail artistique s'est réduit à arpenter Paris avec le petit Julian pour poser des mosaïques sauvages, parce que ça l'amusait. Tout ça n'avait aucun sens.
S'il n'avait plus d'inspiration, objecta Madeleine.
L'inspiration, c'est des conneries, s'énerva-t-il. Bon sang, vous avez vu les photos de son travail ? Sean était un génie, et un génie n'a pas besoin d'inspiration pour travailler. On n'arrête pas de peindre quand on est Sean Lorenz, tout simplement parce qu'on n'en a pas le droit.
Il faut croire que si, remarqua Madeleine.
Bénédicte lui lança un regard noir, mais elle enchaîna.
Donc, Lorenz n'a plus repris les pinceaux jusqu'à sa mort.
Bernard Bénédicte secoua la tête et retira ses grosses lunettes pour se frotter les yeux. Sa respiration s'était accélérée comme s'il venait de monter 4 étages à pied.
Il y a 2 ans, en décembre 2014, Julian est mort dans des circonstances tragiques. À partir de là, non seulement Sean n'a plus travaillé, mais il a littéralement sombré.
Quelles circonstances tragiques ?
Quelques secondes, le regard du galeriste se détourna, cherchant la lumière du dehors avant de se perdre dans le vague.
Sean a toujours été un concentré de force et de faille,
précisa-t-il sans répondre à la question.
Avec la mort de Julian, il est retombé dans ses vieux démons. La drogue, l'alcool, les médocs. Je l'ai aidé comme j'ai pu, mais je pense qu'il n'avait aucune envie d'être sauvé.
Et Pénélope ?
Leur couple battait de l'aile depuis longtemps. Elle a profité du drame pour demander le divorce et n'a pas été longue à refaire sa vie. Et ce que Sean a fait par la suite n'a pas arrangé leur relation.
Le galeriste marqua une pause comme pour ménager un suspense un peu forcé. Madeleine eut soudain la sensation désagréable d'être manipulée, mais sa curiosité fut plus forte.
Qu'a fait Lorenz ?
En février 2015, j'avais enfin réussi à monter un projet sur lequel je travaillais depuis très longtemps. Une exposition de prestige autour du travail de Sean, centrée sur les 21 Pénélopes. Pour la première fois au monde, les 21 portraits allaient être visibles dans un même lieu. Des collectionneurs réputés nous avaient prêté leurs toiles. C'était vraiment un événement sans précédent. Mais la veille de l'ouverture de l'expo, Sean a pénétré de nuit par effraction dans la galerie et a consciencieusement détruit chacun des tableaux avec un chalumeau.
Le visage de Bénédicte s'était décomposé, comme s'il revivait la scène.
Pourquoi a-t-il fait ça ?
Une sorte de catharsis, j'imagine. La volonté de tuer symboliquement Pénélope parce qu'il l'accusait d'être responsable de la mort de Julian. Mais quelles que soient ses raisons, je ne lui pardonnerai jamais cet acte. Sean n'avait pas le droit de détruire ses toiles, d'abord parce qu'elles faisaient partie du patrimoine de la peinture, et puis parce qu'avec ce geste, il m'a ruiné et a mis ma galerie au bord du gouffre. Depuis 2 ans, j'ai plusieurs compagnies d'assurance sur le dos. Une enquête criminelle a été ouverte. J'ai essayé de protéger ma réputation, mais dans le milieu de l'art, personne n'est dupe, et ma crédibilité en a pris un.
Je n'ai pas très bien compris,
l'arrêta Madeleine.
Qui était propriétaire des 21 Pénélope ?
La plus grande partie appartenait à Sean, à Pénélope et à moi. Mais 3 d'entre elles étaient la propriété de grands collectionneurs, un Russe, un Chinois et un Américain. Pour les dissuader de porter plainte, Sean leur avait promis de leur donner de nouvelles toiles, des pièces d'exception, prétendait-il. Sauf que bien sûr, elles tardaient à arriver.
Forcément, s'ils ne peignaient plus.
Ouais, j'avais fait une croix sur ces toiles, moi aussi. D'autant que les derniers mois de sa vie, je pense que Sean n'était même plus en état physique de peindre.
Un instant, son regard s'embua.
Sa dernière année a été un véritable chemin de croix. Il a subi 2 opérations à cœur ouvert qui ont chaque fois failli le laisser sur le carreau. Mais je l'ai eu au téléphone la veille de sa mort. Il était parti quelques jours à New York pour consulter un cardiologue. C'est là qu'il m'a déclaré qu'il avait recommencé à peindre et qu'il avait déjà achevé 3 toiles, qu'elles se trouvaient à Paris et que je les verrais bientôt.
Peut-être ne disait-il pas la vérité ?
Sean Lorenz avait tous les défauts du monde, mais ce n'était pas un menteur. À sa mort, j'ai cherché les toiles partout, dans tous les recoins de la maison, dans le grenier, dans la cave. Mais je n'ai trouvé aucune trace de ces tableaux.
Vous m'avez dit que vous étiez son exécuteur testamentaire et son héritier.
C'est exact, mais l'héritage de Sean était squelettique, tant Pénélope l'avait essoré. À part la maison du Cherche-Midi que vous connaissez, mais qui est hypothéquée, il ne lui restait plus rien.
Il vous alléguait quelque chose ?
Bénédicte partit dans un éclat de rire.
Si on veut,
lâcha-t-il en sortant un petit objet de sa poche. C'était une boîte d'allumettes publicitaires qu'il tendit à Madeleine.
Le Grand Café. C'est quoi ?
Une brasserie de Montparnasse dans laquelle Sean avait ses habitudes.
Madeleine retourna la boîte pour découvrir une inscription au stylo à billes. Une célèbre citation d'Apollinaire. Il est grand temps de rallumer les étoiles.
C'est sans conteste l'écriture de Sean, assura le galeriste.
Et vous ne savez pas à quoi il fait allusion ?
Pas du tout. J'ai bien pensé qu'il pouvait s'agir d'un message, mais j'ai eu beau y réfléchir. Je n'y comprends absolument rien.
Et cette boîte vous était vraiment destinée ?
En tout cas, c'est la seule chose qu'il avait laissée dans le coffre-fort de la maison.
Après avoir posé deux billets pour payer l'addition, Bernard Bénédicte se leva, enfila sa veste et noua son écharpe. Madeleine était restée assise. Elle observait toujours la boîte d'allumettes en silence, donnant l'impression de digérer l'histoire que venait de lui relater le galeriste. Après un instant de réflexion, elle se leva à son tour et demanda « Pourquoi m'avez-vous raconté tout ça, au juste ?» Bénédicte boutonna sa veste et répondit comme une évidence
« Pour que vous m'aidiez à retrouver l'étoile disparue, bien sûr. »
« Mais pourquoi moi ?»«
Vous êtes flic, non ?» Et puis je vous l'ai dit, je fais toujours confiance à mon instinct. Et quelque chose me dit que si cette étoile existe, et j'ai la certitude que c'est le cas, vous êtes la personne la plus capable de les retrouver. »